fantastique, hein, c'est à la minute près le timing. C'est impressionnant, merci beaucoup. Alors comme notre orateur l'a dit, je réponds un petit peu au pied levé, mais alors surtout, c'est avec surprise que je vais être la formaliste des deux. Et presque la rétrograde des deux, François, je prends un coup de vieux là. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, et je vais rebondir, alors même si voilà, c'est au pied levé, je vais rebondir sur les deux cas. Moi, dans les deux cas, les deux cas que tu as soumis ne me choquent pas. Mais pourquoi ? Ben, pour toutes les raisons que tu as dites. En fait, je vais m'expliquer, je pense, et c'est pour ça que je suis plus formaliste que toi. Je crois que de deux choses l'une, soit une formalité renvoie à une valeur, et alors, eh bien, il faut conserver cette formalité et il faut lui accorder toujours la même sanction. Soit une formalité ne renvoie plus à une valeur, et alors il faut opérer un travail, mais ce n'est pas au juge à le faire. C'est selon le législateur, à l'autorité réglementaire. L'exemple de l'emploi des langues est tout à fait bien trouvé, c'est que qui ne peut pas trouver des invraisemblances, des obstacles à l'efficacité et des choses qui dépassent le bon sens du commun des mortels dans notre réglementation de l'emploi des langues? Ben oui, ça je crois que c'est impossible de ne pas trouver des gens qui lèveraient le doigt en posant ces questions. Mais c'est ça qu'il faut changer alors. Parce que c'est en amont, c'est à la racine. Si on trouve qu'à un moment donné, notre réglementation de l'emploi des langues, dont on connaît les causes, sont des obstacles à ce point fondamentaux à la bonne marche, je sais pas, des marchés publics, de l'action publique, eh bien c'est à ça qu'il faut travailler, en amont. Mais comment c'est à faire? Parce que c'est au fond, à mon avis, ça que tu proposes, hein, je ne veux pas te trahir. À modéliser, que ça soit dans la jurisprudence ou dans les interventions du législateur, le rôle du juge à cet égard, c'est à mon avis précisément empêcher les formes de remplir le rôle qu'elles doivent avoir, à savoir servir des principes, éviter l'arbitraire. Tu l'as dit, c'est magnifique cette phrase, hein, la sœur jumelle, la forme est la sœur jumelle de la liberté, c'est extraordinaire ça. Moi, je crois que si on met le doigt dans le fait de vouloir modéliser les formes, c'est précisé, on arrive à l'inverse du résultat auquel on veut aboutir, parce qu'on réouvre, on empêche alors la forme d'être la sœur jumelle de la liberté. Et dans les deux cas, je crois justement qu'on en trouve l'exemple. L'emploi des langues, il faudrait un jour se pencher de manière raisonnable au-delà de nos conflits de chapelles et de villages sur l'impact de cette réglementation de l'emploi des langues, mais le faire là où ça doit être, c'est-à-dire dans les assemblées. Et par ailleurs, eh bien ça c'est le bon exemple aussi, avec l'affaire Tassin, tu l'as dit toi-même, il fallait en amont alors changer quelque chose, être plus raisonnable sur la règle et dire qu'en effet, si le diplôme est en possession de l'administration, l'administration doit pouvoir le fournir. Je pense qu'en fait tes deux exemples montrent au contraire qu'il faut être intraitable avec les formes et parce que si on ne l'est pas, précisément elles ne rempliront plus la fin, le contenu, la valeur, la substance qu'elles doivent remplir. Et alors il y a un vrai paradoxe, c'est que si on commence à modéliser les formes, précisément, on laisse, au fond, plus de place à la forme purement formelle. Tu comprends, François? Il y a une chose que je ne comprends pas dans ce que tu... Enfin, ce n'est pas que je ne comprends pas, c'est que je pense que je ne suis pas d'accord. C'est que si on admet, que ça soit par la voie jurisprudentielle ou la voie légale, qu'on doit modéliser les formes et, au fond, dire, eh bien, il y a des formes qui remplissent un but et il y a des formes qui ne remplissent pas un but et un sens. Les formes qui remplissent un but et un sens, c'est là on doit les respecter et on doit les sanctionner. Mais par contre, il y a des formes qui peuvent être formelles, qui peuvent être accessoires, qui peuvent n'avoir, parce qu'au fond c'est ça, aucun sens et c'est là, au fond, on peut s'asseoir dessus. Eh bien alors, le paradoxe, c'est qu'on nourrit, on renchérit, on légitime et on justifie l'existence de formes qui n'ont pas de sens. Moi, je crois que c'est au contraire en amont qu'il faut intervenir, et c'est au législateur en premier, au premier chef, à faire le tri, à se réfléchir, à se dire, tiens, est-ce que c'est une forme qui a un sens encore au XXIe siècle? Et alors, celle-là, elle reçoit Elle est garantie et elle est sanctionnée comme elle doit l'être et par les principes juridictionnels que l'on connaît. Ou bien cette forme n'a plus de sens au XXIe siècle et alors, eh bien, il faut la remettre en question. Mais par la bande, de manière grise, en aval, dire au fond, il y a des formes avec un sens et des formes qui n'en ont pas, moi je crois au contraire que justement c'est ça qui va encore plus, si tant est qu'il faille se baser là-dessus, compromettre l'efficacité. Et alors, et je dis juste ça parce que finalement moi j'ai pas beaucoup de temps et puis je voudrais vous donner la parole là-dessus. Je suis donc résolument rétrograde et formaliste sur ce point. Et pour la raison que je vais développer maintenant aussi, c'est que je crois qu'il faut sérieusement, et là aussi je suis plus frileuse que toi, réfléchir à admettre, nous les juristes, de manière générale, et alors certainement en matière de justice, à admettre bras ouverts l'efficacité. Je suis absolument effrayée de voir à quel point le critère de l'efficacité, alors que tout le monde s'accorde à par ailleurs reconnaître son inconsistance théorique, pénètre de plus en plus de secteurs de la vie. Ça vaut pour la justice, que ce soit la justice administrative ou la justice en général, mais cela vaut, on le sait très bien, aussi en matière d'enseignement, alors qu'est-ce qu'on le sait, en matière de recherche, n'en parlons pas, ou en matière de culture. Et je travaille par ailleurs, c'est un hasard des choses, sur l'application et les méfaits de l'intrusion des facteurs tels que l'efficacité, précisément dans l'évaluation de la recherche ou l'évaluation de l'enseignement. Et je constate qu'il y a des parallèles à faire, parce qu'au fond, est-ce que nous ne devrions pas, nous juristes, être plus sévères par rapport à ça et dire, attendez, on ne va pas refaire l'eau chaude ou la baignoire, je ne sais jamais, enfin bref, réinventer le modèle. L'efficacité en matière de justice, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'elle nous promet ? Je constate notamment qu'il y a toujours une grande indéfinition sur l'efficacité de quoi ? Si je reprends le titre de la conférence, chez nous, c'était l'efficacité des procédures. On a parlé aussi de l'efficacité de l'administration. Or, ce n'est pas la même chose. Et c'est même, en contentieux administratif, c'est même diamétralement l'inverse. L'efficacité de l'administration, ce n'est pas l'efficacité de la procédure. Quand on réfléchit à l'efficacité, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on veut une administration efficace ? Ça veut dire quoi, d'ailleurs, une administration efficace ? Ou est-ce qu'on veut une justice administrative efficace ? Ce n'est pas la même chose et potentiellement c'est même l'inverse. Parce que si on admet qu'une justice administrative efficace, ça peut être une justice qui précisément contredit beaucoup l'administration, qui lui met précisément des bâtons dans les roues. Ça peut être ça l'efficacité du contentieux administratif. Il y a donc une indéfinition sur ce que c'est l'efficacité, mais aussi sur ce que porte l'efficacité. Les mécanismes dont tu as parlé qui ont été introduits par des réformes légales, moi je relisais celle-là au niveau fédéral, j'entends, le titre parle de l'optimalisation du Conseil d'État. Donc là, ce serait l'efficacité de la justice administrative, mais une fois encore, je le répète, l'efficacité de la justice administrative, ce n'est pas la même chose, et à mon avis, c'est même l'inverse que l'efficacité de l'administration, parce qu'un Conseil d'État, à mon avis, qui fonctionne très bien, c'est un Conseil d'État qui joue son rôle de contre-pouvoir, qui joue son rôle de sanction, ça peut en tout cas être ça, ça se discute, et qui donc, précisément, s'élève, s'érige face à la bonne marche de l'administration. Une indéfinition de la notion d'efficacité, une indéfinition de l'objet, mais aussi, je crois que chaque fois que vient l'efficacité ou le critère d'efficacité, cela noie et cela masque le fait que d'autres efficacités peuvent être en jeu. Je pense à l'efficacité de la justice au sens large ou, alors ça c'est, vous le savez, c'est mon dada, l'efficacité de la citoyenneté. Quand on parle d'optimalisation de la procédure et ou de l'administration, ce n'est pas toujours très clair quand on fait la boucle administrative, par exemple. Il s'agit quand même, bon an, mal an, en effet, de donner une procédure, de trouver un truc et une procédure accélérée pour que l'administration réadopte un acte de manière efficace. On sait d'ailleurs de nouveau pas très bien alors si on vise l'efficacité de la procédure administrative ou l'efficacité de l'action. Moi, je crois que là-dedans, c'est le citoyen et la citoyenneté en général et l'efficacité de la citoyenneté, parce que quitte à parler d'efficacité, il faut parler de toutes les efficacités, qui restent un peu sur le côté du chemin. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle, c'est précisément là-dessus, hein, en invoquant les problèmes d'accès aux juges ou en évoquant les problèmes de motivation formelle qu'elle a critiqué le dispositif. Une efficacité donc évanescente, dont théoriquement l'objet même de l'efficacité me semble tout à fait improbable, et plus généralement je crois vraiment et je suis de plus en plus persuadée que certains secteurs doivent être plus fermes par rapport au discours sur l'efficacité, l'optimalisation, le managering. Ça vaut certainement pour l'enseignement, ça vaut pour la culture, mais ça vaut aussi pour nous les juristes et la justice en général. Et si on doit réfléchir alors peut-être derrière et au-delà d'efficacité et de la problématique qui nous préoccupe, je pense qu'on doit réfléchir, et j'y pense justement pour ce mécanisme de boucle administrative, aux conséquences plus larges de l'émission de l'efficacité dans nos paradigmes. Je vois, mais peut-être que tu pourras réagir à ça, un certain rapport entre différentes tendances qui ont été d'ailleurs étudiées dans d'autres cycles du Centre droit public à critiquer et mettre à mal le modèle de justice ternaire avec un juge en position tierce et deux parties vers un modèle plus binaire et transactionnel. Alors on a vu plein d'exemples, on sait très bien que la transaction est à la mode, on sait que les transactions pénales ont été favorisées, l'arbitrage en matière civile et commerciale se développe dans les traités transatlantiques, enfin TTIP et CETA dont on a parlé récemment, c'était de ça dont il s'agissait aussi, de clauses d'arbitrage. Dans la boucle administrative, vous allez me dire, ça n'a absolument rien à voir. Je ne crois pas que ça n'a rien à voir. Je crois que c'est cette même tendance à remettre en cause, souvent au nom de l'efficacité, des formes et des procédures des acteurs juridiques traditionnels. Parce que la boucle administrative, c'est ce qu'elle fait, au fond. Elle veut instaurer une forme de dialogue inédit entre juge et administration qui laisse de côté, en tout cas qui résout qui aplatit en fait cette ternarité traditionnellement à l'œuvre dans le procès administratif classique. Alors la question là-dessus, et j'en terminerai là, c'est de savoir, et de nouveau c'est un de mes dadas, c'est comment l'administré ou le justiciable ou le citoyen face à ces impératifs d'efficacité, parce qu'on ne parle jamais d'efficacité de la citoyenneté, on parle toujours d'efficacité d'autre chose, en dehors de lui, comment l'administré et le justiciable peut ne pas se sentir exclu de cette justice aplatie ou de cette justice entre... Alors, dans le cas administratif, ce serait une justice entre pouvoir et contre-pouvoir, ça j'entends bien, puisque finalement c'est un dialogue qui va s'instaurer entre administration, le contrôleur et le contrôlé, entre l'administration et le juge de l'administration, mais il n'empêche que pour lui, le citoyen, il s'agira d'un dialogue entre pouvoirs, et donc un dialogue qu'il exclut. Voilà, je te fais peut-être réagir à ça, et puis je prends des questions de la salle, à définition d'efficacité, danger de l'efficacité, et plus généralement, comme je viens de le dire...
Je vais essayer d'être efficace dans ma réponse. Et donc, en résumant dans ce que j'en retiens, la première chose, tu as raison, qu'on peut se demander qui doit intervenir lorsqu'il y a des formalités qui sont inscrites dans les textes et qui suscitent des difficultés d'application. L'affaire Tassin est un bel exemple. Tu dis il fallait changer la loi et on l'a fait après coup. Et on l'a fait en se rendant compte de ce qu'on a gagné budgétairement. Et on pourrait multiplier les exemples où la loi sur l'emploi des langues, tu dis ça, etc. C'est vrai. Mais c'est une vision un peu... excuse-moi, passéiste, de juges qui sont confrontés à des situations au quotidien et qu'ils doivent trancher. Et ne peut pas compter sur un législateur pour intervenir. Il a fallu des cas pareils pour que, non sans mal, et dans une loi pot-pourri 3, finalement, on fasse cela. Donc, je me mets moi à la place du juge et je me dis, et même du citoyen, faut-il ce long détour, certes démocratique, mais qui, dans un monde aujourd'hui, peut se faire autrement pour arriver au respect de la même valeur. Et donc, je crois qu'on pouvait en droit dire autre chose, de dire que l'administration exagère lorsqu'elle exige ce diplôme. Ce n'est pas une formalité, même si c'est écrit à peine de déchéance dès lors qu'elle l'a. Il y a des outils pour répondre à ça. Sur l'emploi des langues dans l'affaire Bull, c'est la même chose. Évidemment, on peut remettre sur le métier, et il faut remettre sur le métier les formes et leurs justifications. Mais à défaut de le faire, les juges ont les moyens de se dire la valeur qui a été voulue à l'époque, si elle a encore un sens aujourd'hui, oui ou non. C'est une forme d'activisme judiciaire, bien entendu, mais on y échappe. Deuxièmement, tu me dis, modéliser les formes a pour paradoxe d'avoir des formes qui existent et qui n'ont pas de sens. Il y a des formes auxquelles on tient, qui ont un but, qui ont une valeur, et d'autres qui n'en ont pas. Oui, ben on te répondra, ben celles qui n'en ont pas, alors il faut les éliminer. Mmh. On est gagnant. On est gagnant quelque part en éliminant aussi les formes inutiles et en ne gardant que celles qui méritent véritablement de l'être. Mmh. Donc, je ne vois pas en quoi cette modélisation est contradictoire à l'existence de formes. Au contraire, tant à trier les bonnes et les mauvaises.
Je peux juste répondre là-dessus, mais parce que du coup, j'ai peur qu'on les oublie. On ne va pas les changer dans le droit positif, dans le droit positif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est finalement, on va les mettre de côté. Elles vont subsister en droit sans qu'on les change, alors que et si on retombe sur la première chose, c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait les abroger.
Une forme de nettoyage, ou truc, faire beaucoup de textes obsolètes ou qui sont interprétés autrement, qui ne reçoivent pas la portée absolutiste qu'on a pu leur donner au fil des évolutions. Troisième point, si j'ai bien compris le rôle, c'est quoi l'efficacité ? C'est vraiment un sujet sur lequel je ne suis pas allé, je le dis franchement, ce n'est pas mon terrain parce que c'est compliqué, ça mériterait d'avoir les idées vraiment au clair en ayant réfléchi, lu beaucoup de choses juridiques, sociologiques et économiques, bien entendu, surtout. Une administration efficace avec une justice administrative efficace ne sont pas en soi une contradiction, une terminus. Pas du tout pour moi. Au contraire, une justice administrative efficace, je l'appelle de mes voeux, mais il faut voir ce qu'on entend par efficace. Et une administration efficace, elle sera mieux servie par un juge administratif efficace. Quand un marché public est suspendu parce que dans les 15 jours, il y a un recours et le Conseil d'État met le haut là, c'est dans l'intérêt de tout le monde et c'est efficace pour tout le monde. C'est beaucoup mieux que d'avoir, comme pour les permis, un permis qui n'est pas suspendu et puis 2 ans et demi après, il est annulé. Et en attendant, on fait quoi ? Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre un principe de standstill aussi pour les permis ? On a un projet et on purge tout de suite. Et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Et ça intéressera l'administration qui sait si son projet tient, elle a délivré le permis, le titulaire du permis qui sait qu'il peut avancer, et surtout celui quand c'est des gros projets, les banquiers qui veulent bien financer. S'il y a le moindre risque d'annulation du Conseil d'État interne, il n'y a plus de financement. Le risque d'exécution. C'est inefficace en termes de fonctionnement. Et il ne serait pas difficile de réorganiser le contentieux à la manière de, pour se focaliser immédiatement et purger dans un délai raisonnable. Et tout le monde est prêt à attendre, préfère attendre 5 mois pour dire quelque chose et être tranché que d'attendre 2 ans et d'incertitude. Donc, il y a moyen de faire les deux. Et alors, je termine sur ton troisième point, la figure du tiers. Alors là, ne me prenons pas. Je n'ai jamais dit qu'en termes d'efficacité, il fallait supprimer la figure du tiers, que ce soit le tiers médiateur, que ce soit le tiers arbitre, avec la difficulté de sa place, ou le tiers juge étatique. Il est évident, et c'est consubstantiel au droit, que la figure du tiers doit toujours exister. Mais ce qui est bien, avec l'évolution qu'on connaît, c'est qu'elle prend différentes formes aujourd'hui. Le médiateur est apparu, et sans doute encore pas assez en droit administratif. L'arbitre prend une place face à une forme d'inefficacité de juridiction étatique, mais c'est peut-être un mauvais procès fait aux juridictions étatiques. Et puis le juge étatique est toujours là, bien entendu. Et donc, je pense que ce tiers-là, on n'y échappera pas, et heureusement, c'est consubstantiel au droit, avec ta bonne question de dire quelle est la place du citoyen dans des pouvoirs efficaces. Est-ce que c'est un dialogue uniquement de pouvoir à pouvoir et sans place pour le citoyen ? Mais je pense que si on creuse cette idée, il y a une place pour une citoyenneté efficace aussi dans le fonctionnement public, dans la prise de décision commune, dans l'organisation d'enquête publique, dans la mise en œuvre de class action, dans l'organisation de forums de discussion et de décision, alors qu'aujourd'hui, c'est effectivement assez inorganisé. Et on a les outils technologiques tout d'abord. Les outils juridiques, on pourrait les forger, on pourrait les exercer, il y a des gens qui y sont, et on canalise ainsi différentes formes d'expression de la volonté populaire, avec différents pouvoirs. Un pouvoir de représentant élu, un pouvoir du peuple lui-même qui s'exprime, un pouvoir de juge qui est un contrepoids aux deux. Et qui peuvent, tous les trois, tenir une forme d'efficacité d'organisation pour permettre la prise de décision publique. Mais bon, c'est des grandes idées, peut-être des idéaux un peu larges, mais si on n'a pas ça devant soi, ben alors on n'avancera pas. Il y a moins d'intégrer.
Et dans la boucle, tu n'as pas...
Alors la boucle administrative, pour moi, la boucle administrative, il ne faut pas oublier, elle ne touche pas à la question du fond. Là, c'est quand même une limite très importante, c'est qu'on invite l'autorité à refaire son acte s'il est réfectible. S'il n'est pas réfectible parce que, par exemple, on a autorisé dans une zone une activité qui ne peut pas y être, je dirais une centrale nucléaire dans le bois de la Cambre, pour faire simple. Tout le monde comprend. Si le juge dit non, il n'y aura jamais de centrale nucléaire dans le bois de la Cambre, et heureusement, on est tous d'accord avec ça. Si, par contre, le vice n'est que formel et réfectible, eh bien l'autorité ne pourra pas. On me dira, oh, je vois qu'on dit, oh non, on pourrait peut-être changer la zone de parc et dire qu'on peut quand même mettre des centrales nucléaires. Mais non, c'est contraire à l'article 23 de la Constitution.
On va toujours faire des exigences de motivation, par exemple, avec des motivations formelles ou matérielles, on va toujours pouvoir trouver un élément.
Oui, mais quand on chute sur le fond du problème, et que vraiment il y a un stop juridique pour une, au regard d'une norme supérieure, ben, la boucle ne trouve pas à s'appliquer. Si par contre on est conforme à la destination de la zone, mais qu'effectivement il manque un élément purement formel, je comprends assez bien qu'en termes d'efficacité, on donne à l'autorité la possibilité de refaire, de régulariser la situation, au besoin des tiers de protester s'il y a encore des motifs de le faire, mais s'il n'y en a plus, le système est mis en place. Et le système est pratiqué aux Pays-Bas. Pratiqué aux Pays-Bas depuis 2010, avec un certain pragmatisme, une certaine efficacité qu'on ne doit pas dédaigner. Et je suis surpris de constater que du côté flamand, ils ont persisté. Ils ont persisté à le faire pour le juridiction.